Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
L'eau, ça n'est pas qu'une ressource. C'est aussi la vie. C'est le milieu qui permet la vie. Et donc c'est la vie qui elle-même nous garantit l'eau potable. L'eau n'est pas qu'une ressource qui sert à faire refroidir des centrales, arroser du maïs ou faire tourner d'autres industries ou d'autres choses, voire faire boire les humains. Dans ces milieux de vie, il y a des êtres vivants autres qu'humains qui ont leurs besoins fondamentaux qu'on doit respecter, sinon ils vont disparaître. Et que la sixième extinction, c'est aussi nous ici sur le bassin de la Loire qui en sommes responsables. Si on n'arrive pas à faire le pas de côté, la plupart des humains en sont incapables. L'anthropocentrisme, l'égoïsme exacerbé des humains est terrifiant. On a besoin de ces êtres vivants qui nous aident à avoir de l'eau potable, avoir de l'oxygène pour respirer. On a besoin d'eux pour se vivre. Tout seul sur la planète, on ne sera plus rien.
Vérité de Lapalisse, sans tout le vivant non humain, l'être humain n'est plus rien. Car c'est tout le vivant non humain qui permet à l'humain de respirer, de boire, de manger, de vivre. Sans eau, sans air, sans sol, sans plantes et sans les autres animaux que nous, animaux dégénérés par le capitalisme, sans tout le vivant non humain, le soi-disant sapiens sapiens, qui en fait ne sait rien, sapiens va disparaître, et ce serait peut-être pas un mal en fait, vu le cancer que notre espèce représente pour les autres formes de vie de cette planète. Notre biotope. Salut les amis, c'est JBD, c'est La Voix Off. Bienvenue à vous dans cette nouvelle émission autour du thème de l'eau douce et potable qui est en train de disparaître. Eau depuis longtemps polluée par des tas de poisons industriels, eau qui commence aussi à manquer, comme on l'aura notamment vu au cours de cet épouvantable été 2022 dont les canicules à répétition annoncent les étés à venir. Depuis le temps qu'on nous parle de réchauffement climatique, ça devient difficile de le nier. On vous a dans cette émission déjà parlé de l'eau avec le mortifère scandale des méga-bassines, absurde et criminel bassin de stockage d'un bien commun, commun privatisé, dilapidé, gâché pour arroser du maïs de l'agro-industrie. Mais cette eau douce et potable, quoique déjà polluée, cette eau sans laquelle on ne peut pas survivre plus de 3 jours, et encore, ce vital bien commun risque de ne bientôt plus couler de nos robinets. Or, l'eau relève de cycles très complexes, bousillés par les activités industrielles. On en parle aujourd'hui avec votre invité, Philippe Boineau, scientifique, spécialiste de l'eau et des poissons, et pêcheur professionnel de Loire. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Mais avant de nous lancer dans notre dramatique exposé du jour, on vous propose de prendre l'air pour une partie de pêche sur la Loire. Ce bruit, c'est celui d'un carrelet, technique de pêche que Philippe va vous expliquer. Mais sur la Loire, ce bruit est quasiment devenu un document ethnographique d'un temps bientôt révolu. Car la pollution aux algues vertes ne permet presque plus la pêche au carrelet sur la Loire. La partie de pêche pour laquelle on s'embarque maintenant a été enregistrée en avril 2002, date de ma première rencontre avec Philippe. C'était sur la Loire, entre Indre-et-Loire et Loir-et-Cher, région centre.
Je vais vous emmener avec la barque donc sur la Tou Cabanée qui est à l'aval du filet barrage. Donc c'est une pêcherie qui sert à prendre sélectivement de la lauze et du saumon. Le saumon, on n'a pas le droit de le garder, donc si on en capture, on estime sa taille et son poids, et on remet ce carrelet, et le saumon repart indemne. Donc c'est une pêche très très sélective, qui permet de ne garder que les poissons qu'on souhaite conserver.
Philippe, on est sur une toue un peu particulière ici.
Ça, c'est une toue cabanée, mais c'est une toue d'un bateau de pêche en fait, professionnel qui est équipé à l'avant d'un carrelet d'environ 4 mètres de côté. Et entre le fond du carrelet et la surface de l'eau, il y a un réseau de fils de nylon qui forme comme une toile d'araignée. Et le pêcheur est dans sa cabane et il tient le bout de la toile dans ses doigts. Quand un poisson migrateur à l'eau ou saumon va passer au-dessus du carrelet, il va frôler ou taper dans les fils de touche. On va sentir une petite secousse. réflexe, on va libérer un contrepoids qui va remonter le carrelet, ce qui fait que le poisson va être instantanément pris dans une poche d'eau dans le carrelet.
Donc le carrelet, c'est cette espèce de grand maillage qui se relève avec le contrepoids.
Voilà. Alors le carrelet est disposé à l'aval du filet barrage en lui-même. Alors le filet barrage, en fait, ne sert pas à prendre le poisson.
Alors là, c'est ce qu'on a devant nous. Hein. C'est-à-dire qu'il barre presque la Loire.
On a le droit réglementairement de barrer les deux tiers de la largeur du Limouillet à l'emplacement du filet barrage. Donc ça barre environ les deux tiers. Effectivement, ça fait 90 à 100 mètres de long.
Donc on a une perche plantée environ tous les 1 mètre, 1 mètre 50, tous les 2 mètres.
Voilà, c'est ça. Qui sert à raidir la nappe du filet barrage entre le fond et la surface de l'eau. Donc le filet est planté verticalement dans la nappe. C'est un filet à très très grande maille, hein, 15 à 18 cm de côté. Donc tous les poissons migrateurs pourraient passer à travers. Mais tout le monde s'arrête. Pourquoi ? Parce que cette nappe tendue de manière fixe est traversée par un courant violent puissant. Et en le traversant, il provoque un mur d'ondes. Et donc le poisson se retrouve face à un obstacle sensoriel. C'est là toute la subtilité, toute l'ingéniosité de cette pêcherie. De mémoire de pêcheur, on n'a jamais pris un saumon ou une alose qui s'était pris dans les mailles du filet barrage. Simplement, ils sont arrêtés par ce mur d'ondes. Donc ils vont le longer, en le longeant, ils vont passer au-dessus du carrelet et taper dans les ficelles.
Cette grande corde là qui va du contrepoids jusqu'à la cabine, on a ici Samuel, là, votre assistant, qui tient cette corde toute tendue dans ses doigts. Donc qu'est-ce qui se passe lui à l'autre bout de ses doigts ?
Eh bien, quand un poisson va frôler les fils ou taper dans les fils parce qu'il a passé au-dessus du carrelet, comme un moustique qui se prend un toile d'araignée, il va provoquer une petite secousse qui va être transmise jusque dans les doigts de Samuel. Et Samuel, il va avoir un réflexe, il va libérer le contrepoids qui va instantanément retomber dans le bateau et soulever le carrelet. Et donc le poisson va être pris dans une poche, mais il va pas te blesser, il va être indemne.
Donc c'est un mode de pêche qui vous permet de sélectionner ce que vous prenez.
Exactement, c'est un mode de pêche extrêmement sélectif. On ne prend que de la grande alose ou du saumon atlantique. Saumon qu'on peut relâcher indemne de toute blessure, puisque le poisson est juste soulevé, et on peut le remettre à l'eau instantanément sans l'abîmer. Et accessoirement des lamproies marines et des mulets. Donc une technique de pêche très sélective qui permet de préserver les poissons menacés pour les relâcher. Donc on ne prend que ce qu'on veut prendre. Donc une technique de pêche vraiment écologique, qui préserve l'environnement, puisqu'en plus on ne bouge pas. La pêcherie est fixe, on n'abîme rien.
En ce moment, vous êtes sur la fin de la pêche à la lose. Vous l'avez commencé quand ?
On a commencé la pêche à la lose début avril. Bon, on est à la mi-mai, donc ça s'avance bien. Je pense qu'il devrait y avoir des aloses en Loire jusque fin mai, peut-être mi-juin, dans le meilleur des cas.
Elles viennent d'où nos aloses ?
Alors ces aloses sont des très très grands athlètes. Ces poissons qui font en moyenne 1,6 kg pour 50 cm de long, ce sont quand même d'assez gros poissons, nous viennent tout droit de l'Atlantique Nord, où elles ont passé 5 ans à grossir en se nourrissant exclusivement de zooplancton. Une nourriture très fine de qualité. Et après cette croissance en mer, donc les plus petits mâles ils ont 3 ans, les plus grosses femelles ont 7 ans, en moyenne 5 ans. Après cette croissance en mer, au moment de la reproduction, chaque stock d'aloses va rentrer dans sa rivière d'origine. C'est-à-dire que les aloses du bassin Loire remontent dans le bassin Loire, les aloses de Gironde remontent en Gironde et celles de la Dour dans la Dour. Les poissons ne se mélangent pas. C'est une espèce qui, au début du XXe siècle, était présente dans tous les fleuves du sud de la Norvège jusqu'au sud du Maroc. Mais, comme pour le saumon, à cause des barrages édifiés partout, il a pratiquement disparu. Donc il n'y a plus de stock exploitable suffisamment abondant qu'en Loire, en Gironde et en Dour. Donc ce sont devenus des ressources rares qui font partie des espèces menacées et qui sont nécessaires à conserver pour le maintien de la biodiversité.
On va peut-être se mettre à l'affût en cabine.
D'accord, on y va.
Toujours sur l'atout cabané de Philippe Boineau, pêcheur professionnel de Loire. Partie de pêche enregistrée en avril 2002.
Philippe, est-ce que c'est une bonne saison cette année ?
Alors la saison de pêche est bonne parce qu'on a une migration assez abondante qui est liée, on l'analysera plus tard par l'analyse des écailles, mais qui normalement ce sont essentiellement des poissons de 4 ans, donc qui sont nés en 98. L'effet positif c'est qu'il y a une bonne migration, l'effet négatif c'est compte tenu des débits très faibles, on peut déjà prévoir que la reproduction sera nulle parce que ces poissons-là ont tellement d'obstacles sur leur parcours et des obstacles parfois insuffisamment ou très mal aménagés, on passe à poisson. Qui fait qu'ils n'arriveront pas sur les zones de reproduction adéquates à l'amont.
Et pourtant, il y a des décisions politiques qui ont été prises à cet effet pour que ce patrimoine naturel puisse être préservé.
Ce serait la solution idéale, c'est ce qui se passait jusque récemment. Mais là, on a vécu une période bizarre où la région centre, justement, la Dyrène centre, ont refusé de contractualiser avec nous, mais aussi de souscrire avec l'État dans le contrat retour aux sources. C'est-à-dire que c'est l'État qui met à disposition des collectivités des montants très importants à charge pour les usagers que nous sommes, de contractualiser des actions qui sont études de population, restauration de frayères, construction de la passe à poissons, mais toutes ces actions techniques qui peuvent permettre de restaurer des populations de poissons grands migrateurs abondantes. Là, ce qu'on vit, c'est assez effarant, c'est que la région Pays-Loire a contractualisé, la région Poitou-Charentes aussi, région Limousin, région Bourgogne, région Auvergne, mais la région centre a refusé. On a fini par me répondre, après 3 ans de négociation, que les poissons migrateurs et la pêche de ces poissons ne les intéressaient plus, qu'on pouvait disparaître. Donc je comprends mal qu'après, on se serve notamment de l'image des poissons migrateurs et de l'image du filet barrage, qui est quand même un outil à caractère culturel, paysager, qu'on se serve de cet outil pour faire classer la Loire au patrimoine mondial au titre des paysages culturels.
Quelles conséquences ça va avoir ?
Si les besoins de mener des actions majeures en termes de restauration sur la région centre, que ce soit en termes d'ouvrages d'art ou d'études scientifiques sur les populations, ou de maintien de pêcheries écologiques telles que celles de filet barrage, ça va disparaître. C'est tout.
Et maintenant, direction la cabane de notre tout cabané, vous allez rencontrer Samuel, l'assistant de Philippe Boineau. Et Samuel est extrêmement concentré sur sa pêche.
Donc Samuel, là vous êtes derrière la vitre, face à vous, le contrepoids avec le filet, dans votre main, cette cordelette tendue là.
J'attends qu'une alose ou un mulet se prenne dans le réseau de fil de nylon qui est au-dessus du carrelet, verticalement. Si je sens une touche, je libère le treuil pour remonter le carrelet et pour attraper le poisson. En fait. On sent les vibrations du courant dans la ficelle et dès qu'il y a une alose qui passe dans le réseau de fil de nylon, on sent une petite tirette dans les doigts, c'est assez net et on libère le treuil. Là on a 2 aloses, 1,5 kg en moyenne.
Un petit coup de gourdin.
C'est pour les tuer, pour éviter qu'elles souffrent et qu'elles s'abîment. Voilà, maintenant on remet le carrelet en pêche. C'est-à-dire qu'on remonte le contrepoids. Et le carrelet s'abaisse dans l'eau.
On prélève des écailles et on note la taille, le poids et le sexe de chaque alose pour suivre les analyses de la démographie de cette espèce. 1,1 kg. Malgré l'absence de soutien de la Dyrène et de la région centre, on continue malgré tout, coûte que coûte, à poursuivre l'acquisition de ces données puisqu'on ne peut pas se permettre de louper une année. On a une série chronologique maintenant de plus de 15 ans, qui est une série unique en Europe sur un grand migrateur, sur un grand bassin hydrographique. Donc ce sont des données de valeur scientifique extrêmement importantes. Qui sera absolument dommage de perdre. Bon, on continue malgré tout en espérant un retour de collaboration de la part des acteurs qui seront en droit de s'intéresser à l'analyse du devenir de ces poissons.
Et donc ce poisson que vous pêchez ici à bord de votre tout, vous le vendez ?
Bien sûr, puisque mon activité principale, c'est celle de pêcheur poisson en eau douce, et que donc il faut que j'égage un chiffre d'affaires pour essayer de gagner ma vie. C'est pas facile et... Surtout quand beaucoup de restaurateurs ne jouent pas le jeu.
Vos clients, ce sont les restaurateurs qui font de la restauration traditionnelle.
On pourrait croire que c'est pas ça qui manque de la région. Effectivement, il y a beaucoup de restaurants qui affichent gastronomie régionale, produits du terroir, menus selon marché et saison. Et puis là, j'ai passé au moins 100 de coups de fil à des restaurants qui affichent, ou j'ai rencontré des restaurateurs qui affichent ce genre d'appel auprès de leur clientèle. Et malheureusement, la plupart s'alimentent en produits venus d'ailleurs, quoi, soit de l'import.
C'est-à-dire qu'il y a des tas de restaurateurs qui proposent de la cuisine de Loire.
De la cuisine de Loire, ils ne vont pas jusque-là, parce qu'ils savent qu'afficher poisson de Loire, ce serait trop risqué. Mais quand un restaurant du bord de Loire affiche menu du terroir, avec du cendre à ceci, du broche à cela, ou de la lose à machin, et quand vous rencontrez le restaurateur qui vous dit qu'il n'est pas du tout intéressé pour vous prendre vos produits, que vous êtes le seul pêcheur poisson dans tout le secteur à pouvoir effectivement légalement offrir ses poissons de Loire à la clientèle, et que vous finissez par vous dire que non, il s'approvisionne dans une grande surface réservée à la restauration, c'est la grande surface qui est provisionnée uniquement en produits d'importation, poissons des pays de l'Est essentiellement, pour les poissons d'eau douce, et on peut être inquiet, quoi. C'est la fraude, c'est la tromperie sur la marchandise. Alors effectivement, il y a une quinzaine de restos qui jouent le jeu dans le Val-de-Loire. Donc ce que j'inciterai les clients à faire, c'est maintenant qu'ils exigent de voir le logo, parce qu'on vient de déposer une marque collective Poisson Sauvage du Bassin de la Loire, avec au dos de l'étiquette le numéro de chaque poisson et la date de pêche. Si on veut être sérieux, il faut que les restaurateurs qui jouent le jeu affichent ce logo avec le label, et puis que les clients osent demander de voir le label. Quand on affiche du menu terroir avec du poisson qui peut être de la Loire, ce soit effectivement du poisson de Loire, pêché par un vrai professionnel, et la veille. Bon, il y a quand même entre 15 et 20 restaurants qui jouent le jeu. Mais malheureusement, ça n'est pas assez pour pouvoir permettre le maintien de pêcheries professionnelles actives.
On est pris dans un cercle vicieux, dans la mesure où il n'y a pas assez d'acheteurs pour les produits sauvages de Loire. Les pêcheurs ont du mal à se maintenir. Et de même que les restaurants qui veulent faire du poisson sauvage de Loire ont du mal à avoir des cartes qui tiennent la route parce que bah, l'approvisionnement n'est pas suffisamment régulier. Donc là, il y a un problème qui est sérieux. La gastronomie de réputation mondiale du Val-de-Loire, elle est en train de prendre un sale coup, quoi.
C'est ici la fin de ce reportage produit en avril 2002. On retrouve maintenant Philippe Boineau, mais deux décennies plus tard, à l'automne 2022. Comme vous allez le voir, en 20 ans, la situation a empiré. Philippe, je suis ravi de te retrouver. J'ai eu le privilège que tu m'emmènes pêcher au Carlet, la Lauze. J'ai passé un merveilleux moment à relever tes filets. Il y avait de la brume sur la Loire. Ce moment me nourrit toujours, donc je te remercie à nouveau aujourd'hui.
Je t'en prie. Oui, c'était le Carlet qui était au nez de la Toue sous le filet barrage. C'est une technique de pêche endémique à la Loire qui n'existe sur aucun autre fleuve du monde. On met un filet en travers du fleuve. On n'a pas le droit de barrer plus des deux tiers de la largeur du lit mouillé, mais plus de 100 mètres, c'est pas possible. Et ce filet, posé en travers de manière fixe, crée un obstacle, mais pas un obstacle physique, parce que ce sont des très grandes mailles. Donc les alouses, les lamproies, les ablettes pourraient passer à travers. Mais en fait, comme il est tendu de manière fixe à la verticale dans un courant puissant qu'il traverse, ça provoque des ondes. À la surface, ça fait des vaguelettes parfaitement parallèles. Donc les poissons, leur organe sensitif, leur ligne latérale leur indique qu'il y a un obstacle. Ils ne savent pas qu'ils pourraient passer à travers, donc ils vont le longer pour trouver un passage. En le longeant, ils vont passer au-dessus du Carlet. Dans le fond du Carlet, un réseau de fils de nylon qui forment comme une toile d'araignée. Et le pêcheur, il se tient dans sa cabane, bien au chaud à côté du poêle. Il tient le bout du fil dans ses doigts, comme l'araignée en fait. Et on sent les vibrations du courant, les remous. C'est un peu le prolongement de nos doigts, de nos neurones qui sont dans la Loire. Quand un poisson va frôler les fils ou taper dedans, à ce moment, au réflexe, on libère un contrepoids qui va remonter le Carlet. C'est une pêche d'attente en fait. C'est une sélectivité. Il n'y a que les poissons grands migrateurs, saumon, alose, lamproie, qui viennent se faire capturer. Les ablettes, les brames, les carpes, les brochets du coin, ils n'ont pas un impératif de remonter dans la Loire centrale. Donc quand ils arrivent sous le filet barrage, ils font simplement demi-tour, ils vont voir ailleurs. Autrefois, c'était une technique utilisée pour le saumon et la lauze. Et depuis 1994, le saumon est intégralement protégé. Donc maintenant, il n'est plus utilisé que pour la lauze. Mais de moins en moins, puisqu'il y a des algues vertes qui nous gênent considérablement. Puisque les algues vertes, maintenant qu'ils se développent à partir du mois d'avril, obstruent tous les filets et ça devient un cauchemar. Et donc, ça m'empêche d'utiliser ces techniques. Il y a encore un collègue dans le Maine-et-Loire, entre Saumur et Angers, qui l'utilise, mais ça doit être le dernier des Mohicans.
Comment est-ce qu'on pourrait te présenter, Philippe ? Deux casquettes, comme on dit, c'est-à-dire celle de scientifique et celle de pêcheur professionnel de Loire.
Bah, effectivement, j'ai une formation de scientifique. Hein. Comme ma conjointe Catherine, je suis docteur en sciences. J'ai fait un doctorat sur l'écologie, la biologie et la génétique des populations d'alose sur le bassin de la Loire, thèse qu'on a soutenue en 1990. Après la thèse, j'ai passé des concours, mais bon, voilà. Vu la pénurie de postes dans ce domaine-là en France, il aura fallu s'expatrier. Donc, comme Catherine, elle, qui était pêcheur professionnel à ma place avant, a décroché un poste de maître de conférence à l'Université de Tours, j'ai choisi que je reprenne son activité de pêcheur, ce qui nous permettait de travailler ensemble et à moi, finalement, en tant que pêcheur, chercheur, de continuer à collaborer à des programmes scientifiques. Très intéressant, passionnant. Ça nourrit pas forcément son homme, mais c'est passionnant de contribuer à faire avancer les connaissances sur ces ressources, sur les paramètres qui font qu'elles sont menacées, d'extinction pour certaines d'entre elles, en forte régression pour d'autres, et de pouvoir contribuer à améliorer leur sort en proposant des solutions adaptées aux contraintes qu'elles rencontrent, qui ne sont pas forcément justement celles de la petite pêche professionnelle que je représente. Alors dans mes fonctions, j'étais assez rapidement élu pour représenter mes collègues. Et nouveau du bassin Loire-Bretagne, je suis actuellement vice-président de l'association des pêcheurs professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne. Et je les représente dans différentes instances, dont le comité de gestion des poissons migrateurs, mais aussi le comité de bassin Loire-Bretagne, qui est l'instance qui, normalement, gère et doit restaurer la qualité écologique des eaux et des milieux aquatiques au titre des lois françaises, mais aussi au titre de la directive 4 sur l'eau de 2000.
Dans cette instance, comité de bassin Loire-Bretagne, tu représentes un usage économique.
Tout à fait, j'ai une voix sur 190, puisqu'il y a 190 membres. Le principe du comité de bassin, en fait, c'est une innovation de la loi sur l'eau de 1964. Alors pourquoi est-ce qu'en France, il y a une loi sur l'eau en 1964? Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un exode rural assez massif. Les populations dans les villes se sont accrues de manière très importante. Il y a eu réindustrialisation de la France. Et puis la grande révolution, la modernisation de l'agriculture. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir des rejets un peu diffus sur tout le territoire, on a eu assez brutalement, après la guerre, des rejets d'eau usée, brute, très chargée en polluants, concentrés dans les villes ou à l'aval des villes. Ce qui fait que, par exemple, les rejets des industries autour d'Orléans commencent à poser des problèmes d'eau potable pour Blois ou Tours ou Angers. Et donc les parlementaires ont pris conscience qu'il y avait un problème, donc qu'il fallait essayer de gérer l'eau. Et c'était une innovation française que de penser qu'on puisse gérer l'eau à l'échelle des bassins versants. Toutes les eaux qui se partagent au niveau de ligne de crête, qui se rejoignent au niveau d'un ruisseau, puis d'une rivière, puis d'un fleuve, puis d'un seul estuaire, c'est ce qu'on appelle le bassin versant hydrographique. Et donc la gestion de l'eau à l'échelle de ce bassin, c'est ce qu'on appelle le grand cycle de l'eau. Pour différencier du petit cycle de l'eau, qui est la gestion du prélèvement pour l'eau potable, jusqu'au rejet des eaux usées après les stations d'épuration. Ça, c'est le petit cycle.
Je t'ai entendu tout à l'heure dans ta présentation utiliser le mot « ressource ». Ressource en poisson, ressource en eau. Est-ce que l'usage de ce mot « ressource » peut déjà interroger ?
Ah oui, ce terme « ressource », moi, il commence à me gêner énormément dans la mesure où, sous le terme de « ressource », il y a beaucoup de représentants de groupes d'usagers notamment, qui ne voient l'eau que comme une sorte de minerai. C'est une ressource qui est disponible ou qui l'est moins, dans laquelle on peut prélever, qu'on peut dépenser, qu'on peut utiliser, sans trop se préoccuper des autres fonctions qu'a l'eau, en fait. C'est une ressource, mais ça n'est pas qu'une ressource. C'est aussi la vie. C'est le milieu qui permet la vie. La dimension écosystémique de l'eau, pour beaucoup, elle est un peu masquée par cette vision de l'eau en tant que ressource. Culturellement, ils ne la comprennent pas ou ils ne l'admettent pas. C'est parfois très difficile d'avoir des débats constructifs autour de la préservation de l'usage de la ressource en eau, justement, puisqu'elle est vue au travers de ce prisme ressource qui est, à mon avis, limitatif. Oui, j'avais commencé à parler de la loi sur l'eau de 64 qui a créé des comités de bassin, c'est une innovation, qui justement cherche à viser à gérer l'eau au mieux. Les premiers objectifs, c'était de restaurer la qualité de l'eau pour assurer l'eau potable, puisqu'on polluait massivement l'eau, donc on s'est aperçu qu'il fallait mettre en place des réseaux d'égouts, des stations d'épuration, et puis mettre en place aussi des réseaux d'alimentation d'eau potable, parce que bon, c'était après-guerre, c'était assez disparate tout ça. C'est une loi qui a été assez efficace, hein, puisqu'effectivement, tous les paramètres liés aux pollutions urbaines et industrielles ont été quand même grandement améliorés. Alors ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, hein. Politique des petits pas, 36 000 communes à équiper en France, plusieurs dizaines de milliers d'industries à adapter, à mettre en conformité avec des normes de rejet et tout. Mais à partir des années 90, on a vu une nette amélioration de certains paramètres liés à ces pollutions urbaines et industrielles qui font que des espèces, on va voir, comme le goujon ou la blette qui avaient complètement disparu, sont revenus en masse, par exemple. Il y a eu des bio-indicateurs comme ça qui montrent que la qualité de l'eau s'est bien améliorée. Après, alors, il y a eu différentes étapes. Il y a une loi sur l'eau en 1992 qui fasse qu'on doive planifier un peu les problèmes de restauration de la qualité de l'eau en écrivant des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, toujours à celle des bassins hydrographiques. Donc il y a eu un premier SDAGE sur le bassin en Bretagne comme il y a eu sur les 5 autres grands territoires français. Hein, la métropole est découpée en 6 territoires des comités de bassin. Alors la loi de 64, à côté du comité de bassin, qui est une sorte de parlement de l'eau, je ne parle pas de parlement de Loire, hein, de parlement de l'eau, avec 20% de représentants de l'État ou des établissements publics, 40% d'élus, collectivités de toute taille. Par exemple, bassin de Loire, on a des maires des communes de montagne, des communes littorales, des communes rurales, des métropoles, des départements, des régions, etc. Et puis 40% d'usagers, dont 20% d'usagers non économiques, c'est-à-dire associations environnement, associations de consommateurs, fédérations de pêche de loisirs en ligne et quelques autres usagers, et puis 20% d'usagers économiques. Donc moi, j'ai une voix parmi ces 20% d'usagers économiques pour représenter la petite pêche professionnelle en eau douce. Et donc ce comité de bassin, il est adossé par une agence de l'eau Loire-Bretagne, qui est en fait une sorte de grande mutuelle. Quand on paye sa facture d'eau, on paye des redevances pour assurer l'alimentation d'eau potable, mais aussi épurer ses eaux usées. Et en fait, ces redevances servent à financer l'amélioration du système d'épuration, d'eau potable. Et ce qui est nouveau maintenant, c'est la restauration écologique des milieux aquatiques. Parce que du coup, notre loi française 92 et le système de la loi sur... C'est une première mondiale et ça a été copié dans beaucoup de pays de la planète. Et l'Europe a repris, dans sa directive 4 sur l'eau, 7 principes de gérer l'eau par grand bassin hydrographique. La France a fait école. L'objectif des discussions qu'on a dans ces comités de bassin, c'est effectivement de négocier, discuter et de partager une culture commune pour restaurer la qualité de l'eau. Et maintenant, la qualité des milieux aquatiques, puisque une bonne partie des citoyens ont compris que pour se garantir une alimentation en eau potable la plus sécurisée au moindre coût que possible, la meilleure façon, c'était d'avoir des milieux aquatiques en bon état de santé, donc en bon état écologique. Une rivière qui est méante, qui est diversifiée, etc., va auto-épurer elle-même les eaux et donc va faire que ce soit plus facile pour nous de pouvoir prendre cette eau pour la boire ou pour d'autres usages. Alors que si elle est très dégradée, qu'elle coule comme un canal avec pas de diversité d'habitat, de faune, de flore, de bactéries et autres éléments, l'eau va rester plus polluée et donc sera plus difficile et coûteuse à rendre potable. Ce que moi j'ai pu observer, parce que je siège au comité de bassin en Bretagne depuis 1996, c'est que cette culture collective, qu'on partageait en discutant, parfois en s'engueulant, mais bon, entre acteurs, malheureusement, elle est un peu en voie de disparition. Peut-être que c'est les conditions de plus en plus difficiles, à la fois économiques et hydroclimatiques, avec le dérèglement climatique, qui fassent qu'il y a un raidissement d'un certain nombre de groupes d'acteurs autour de leurs besoins en eau. L'eau vue comme une ressource, comme un minerai. Et donc, une petite dérive, doucement, qui parfois est brutale pour certains acteurs, qui revendiquent le fait qu'ils viennent pour avoir la plus grosse part du gâteau que possible, dans ce qu'ils peuvent prendre comme eau, pour le moins cher possible.
J'ai une question de philo, vous n'avez pas 4 heures. En dînant avec un couple d'amis il n'y a pas très longtemps, les bras me sont tombés des mains parce que je ne savais pas quoi dire. Quand les copains en question m'ont dit « il faut donner une valeur marchande à ce qu'on appelle la nature », fermez les guillemets, l'eau par exemple. Et les copains me soutenaient que c'était finalement en mettant des étiquettes de prix sur les arbres, sur les oiseaux, sur les poissons, sur l'eau, sa quantité, sa qualité, que ça amènerait les industriels par exemple à prendre conscience de sa valeur. Est-ce qu'on peut faire rentrer ce qu'on appelle, entre guillemets, la nature dans un raisonnement purement capitaliste, en fait ? Je suppose que le dernier arbre de la planète sera coté très cher à Wall Street, ce que je trouve très dangereux, parce que ça a envoyé un signal, par exemple, aux pétroliers en leur disant « bah voilà, une marée noire, ça coûte que tant. Donc vous pouvez polluer tant que vous voulez, tant qu'on allonge les zéros sur un chèque, qui de toute façon ne pourrait pas remplacer ce qui a été détruit. »
Alors c'est quelque chose qu'on nous a poussé à travailler, effectivement, d'essayer d'évaluer de manière monétaire les biens et services fournis par la nature, et notamment par les milieux aquatiques et l'eau. Effectivement, une rivière en bonne santé va nous fournir de l'eau potabilisable pour moins cher. Évaluer la valeur de cette rivière en bonne santé un peu en rapport du surcoût qui aurait nécessité le traitement de l'eau si la rivière a été en mauvais état ou qu'on l'avait transformée en canal. Et que du coup, il ait fallu engager des frais importants pour rendre l'eau potable, parce que l'eau y serait restée dans ce milieu de très piètre qualité. C'est vu un peu comme ça, comme le pendant des surcoûts du fait que les biens et services ne puissent plus être rendus par la nature. Certains peuvent peut-être, économistes, arriver à faire des calculs comme ça. Pourquoi pas ? Mais ça me semble assez compliqué. Après, tout dépend de l'échelle de temps et de l'échelle géographique. Parce que si ça peut, pour l'eau, être... apprécié au niveau d'un ruisseau, d'une petite rivière, au niveau d'un grand fleuve, d'un estuaire ou de l'océan, ça me paraît plus compliqué. Le fait qu'il n'y ait plus assez d'eau à couler dans la Loire, là, quand on sort d'une période de sécheresse historique avec des températures jamais connues, la Loire a été à la limite de ne plus pouvoir rendre plein de services qu'elle a rendus jusqu'à présent aux humains. On a frôlé la cata quand même. sur pas mal de points, y compris l'eau potable. Je suis assez perplexe parce que pour les échelles macro, à l'échelle d'un bassin comme le bassin Loire-Bretagne, ça fait plus de 115 000 km², c'est important. Et après, à l'échelle de la planète. Ce qui est méconnu ou oublié, c'est que l'eau douce est nécessaire sous nos latitudes tempérées pour que la mer puisse être productive. 80% des espèces de poissons exploitées dans le golfe de Gascogne ont une phase de leur cycle biologique, que ce soit la reproduction, les juvéniles ou plus tard, besoin de faire un séjour dans une zone d'eau saumâtre, ce qu'on appelle les estuaires ou la bande côtière. Il faut donc que le taux de salinité soit réduit. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des milliards de mètres cubes qui arrivent dans le golfe de Gascogne. Or, ça fait 2019, 2020 et 2022 où il n'y a pas eu l'eau qu'il fallait. C'est-à-dire que la reproduction de plein d'espèces n'est plus possible. Les bars, les sols, les crevettes, le maigre, les huîtres et j'en passe. Donc, ce sont des biens et des services économiques qui ne vont plus pouvoir être rendus par nature puisque les humains, ailleurs, ont abusé de la ressource en eau qui ne voit que comme une ressource et qui est encore disponible. Donc ce système de comptabilité économique est, à mon avis, très, très limité parce qu'un économiste, il ne va jamais jusqu'à comptabiliser le déficit de production de poissons qu'on va subir pendant 7 ans après la sécheresse de 2022. C'est-à-dire que moi qui suis pêcheur, je sais que jusqu'en 2027, 28, 29, j'aurai moins d'alose, moins lamproie, moins d'anguilles et pas de saumon à pouvoir pêcher. Parce que simplement, c'est la durée qu'il faut pour un cycle biologique pour ces espèces. Et là, elle ne va pas se reconstituer puisqu'on a anéanti les éventuelles reproductions de l'année 2022. On va avoir une pénurie qui va durer un bout de temps. Mais ça, je n'ai jamais vu aucun économiste prendre en compte ce genre de paramètres. Et encore moins pour s'inquiéter des baisses de production de barres, de dorades ou de maigres sur la côte. Ou l'éventuel échec dans la production des huîtres. L'ostréiculture, c'est quand même important pour nos régions côtières. Non. Ça, c'est des paramètres qui sont trop complexes, trop éloignés de leurs préoccupations, qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas admettre. C'est un peu des effets pervers, ces histoires d'appréciation de la valeur économique des biens et services rendus par la nature.
On peut tout simplement dire que c'est inestimable, en fait.
Ah oui, alors, sans oublier que, quand même, on respire, nous, parce qu'il y a 21% d'oxygène dans l'air. 21%, ils sont produits essentiellement par les algues dans les rivières et les océans et par les forêts. Comment est-ce qu'on comptabilise l'éventuelle production d'oxygène comme un bien et service à échelle planétaire rendu par la nature à nous humains et si ça ne marche plus, on est mort, hein? Si on a une baisse de 2-3% du taux d'oxygène, là, ça va être la cata. Il n'est pas impossible, avec l'acidification des océans, avec la déforestation qui continue un peu partout, qu'on n'ait pas de soucis de cet ordre un jour ou l'autre. Donc comment est-ce qu'on monétise ça? Moi, je ne vois pas bien.
Un autre thème, celui du Parlement de Loire. Là, il y a une poignée d'années à Tours maintenant. Ces rencontres, je pense que ça a eu au moins un mérite, c'est de faire émerger dans l'opinion publique le fait qu'on pourrait doter un milieu naturel d'une entité juridique. Ça reste en fait très anthropocentré comme vision des choses, c'est-à-dire qu'on va faire témoigner la Loire à la barre d'un tribunal représenté par des sapiens. Et aussi quelque chose que je me disais avec les 190 acteurs qui participent au comité de Loire-Bassin.
Qui devraient...
Non, parce que dans les collèges que j'expliquais, il y a 40% d'élus. Malheureusement, il y a une poignée d'élus très convaincus, passionnés par l'eau. Mais la majorité, ils sont absents. Ils sont absents des commissions où on discute, on échange, où on essaie de partager une culture commune sur les objectifs qu'on doit atteindre. Donc on est prêt à partager les efforts aussi. Il y a plein d'élus qui sont en titre au comité de bassin. Mais soit qu'ils n'y viennent pas, soit qu'ils donnent un pouvoir à quelqu'un d'autre. Il est introduit des règles, hein, au bout de 3 absences non justifiées, on demande à personne, c'est démissionnaire ou voilà. Le problème, c'est que les instances du comité de bassin n'arrivent plus à trouver d'élus pour siéger dans ces instances.
Ce comité de bassin, c'est aussi une sorte de parlement de Loire, finalement, où tous les usagers de la Loire...
Un parlement de l'eau, hein, c'est le bassin Loire-Bretagne, voilà. Il y a les côtiers vendéens aussi, petit fleuve breton. Mais ce parlement de l'eau, qui se revendique comme tel, a bien joué son rôle pendant quelques dizaines d'années, mais là, je constate un effritement. Parce que les élus sont moins parce que c'est devenu peut-être trop complexe, qu'il y a un turnover trop rapide dans les élus. C'est-à-dire que la plupart le disent, il faut un mandat pour comprendre comment se passe tout ça. Il faut un deuxième mandat pour commencer à faire des propositions d'action. Et puis normalement, il faudra un troisième mandat pour essayer de voir. Bon. En plus, je crois que c'est limité à deux mandats maintenant. Donc en fait, on participe et on n'a pas le temps de voir le résultat du travail qu'on fournit. Donc c'est peut-être un peu démotivant. Ça fait des dizaines de kilos de documentation à lire. Bon, maintenant, c'est plus en kilos, c'est en mégaoctets. C'est un travail considérable qu'il faut pour comprendre tout ce jeu d'acteurs aussi qui est compliqué, quoi. Et aussi pour essayer de comprendre comment fonctionne le cycle de l'eau. Hein. Beaucoup d'acteurs, maintenant, se sont recentrés sur leur groupe d'intérêt. Et il y a un peu une radicalisation dans la mesure où chaque représentant de chaque groupe d'acteurs, il vient pour y défendre son droit d'accès à la plus grosse part du gâteau, en payant le moins cher possible. Notamment pour l'agriculture conventionnelle ou pour l'industrie agroalimentaire, c'est devenu leurs objectifs principaux. Et eux ne voient l'eau que comme une ressource qui doit arroser le maïs et puis j'en ai rien à faire des autres fonctions. Et ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, une goutte d'eau qui va tomber sur mon gerbéjon, normalement, si on la gère bien, elle va remplir plein de fonctions. Elle va faire vivre les ruisseaux, les rivières, elle va éventuellement alimenter des petites communes où les gens ils vont prélever l'eau pour leurs besoins domestiques. Mais là, l'usage domestique de l'eau, alors il faut bien différencier le prélèvement et la consommation nette. Il y a un prélèvement brut, une eau qu'on emprunte à la nature, à la rivière, à la nappe phréatique, qu'on va utiliser, qu'on va souiller. Après, on va essayer de la dépolluer et puis on va la rendre. La consommation urbaine, citadine, c'est à peu près 90-95% de l'eau qui va être rendue au milieu dans un délai assez court après le prélèvement et dans un endroit pas trop éloigné de son prélèvement. Donc si c'est bien géré, ça ne va pas trop perturber la vie de l'eau et des milieux aquatiques. Par contre, il y a des usages qui prennent l'eau, mais qui ne la restituent pas. C'est-à-dire qu'il y a un taux de consommation nette qui va augmenter. Donc sur le bassin de la Loire, le premier poste où l'eau est empruntée et ne retourne pas au milieu, c'est le refroidissement de centrales nucléaires. Alors certes, maintenant, on a des centrales à circuit fermé. C'est-à-dire que les vieilles tranches à Voine, à Chinon ou à Saint-Laurent-des-Eaux, c'était circuit ouvert. C'est-à-dire que pour refroidir un cœur de centrale nucléaire, il faut 30 mètres cubes d'eau seconde. 30 mètres cubes d'eau seconde qui était pompée à température ambiante, rejetée chaude dans la Loire. Donc il y avait des conséquences assez lourdes sur l'écologie. Bon, après Tchernobyl, ces tranches elles ont été fermées et c'était remplacé par des circuits fermés. La vapeur d'eau est injectée au bas de la tour. En montant, ça se condense et ça tombe sous forme de pluie. Et il n'y a qu'un mètre cube seconde qui s'évapore sur les 30 mètres cubes. Donc il faut pomper pour compenser. Les 29 autres mètres cubes, ils repartent pour refroidir le réacteur. Donc c'est mieux. Mais n'empêche qu'un mètre cube seconde, pour EDF, c'est peu. Mais à la minute, ça fait 60 mètres cubes. Ça fait 800 millions de mètres cubes par an sur le bassin de la Loire. Le chiffre que je donne, c'est total. Environ 800 millions, c'est pour tout le bassin de la Loire. Le deuxième poste de consommation nette, c'est là où l'eau est prise et ne retourne pas au milieu, c'est l'irrigation. Et surtout l'irrigation du maïs. Parce qu'il y a des irrigations. Alors, il y a bien sûr le maraîchage, l'arboriculture et autres. Mais ça, bon, on peut concevoir que c'est pour l'alimentation humaine et que ce soit raisonnable. Maintenant, faire des cultures industrielles, cultures de maïs qui vont servir à l'industrie ou à l'élevage bovin, c'est peut-être plus trop raisonnable, puisque là, ce sont environ 650 millions de mètres cubes qui sont prélevés dans le milieu et qui n'y retournent pas. Alors, certains nous disent, si, ça y retournera. Ah ouais, mais si ça retourne aux US ou en Afrique ou autre, c'est sorti de nos grands cycles de l'eau, nous, du bassin de la Loire. Hein, l'eau, elle ne va pas retomber entre le Mont-Gerbier-des-Joncs et Saint-Nazaire. L'eau, elle va être rendue ailleurs. Donc, ça sort du cycle. Et surtout, le problème, c'est que il y a besoin de pomper, d'autant plus qu'il pleut moins. Et c'est entre les mois de mai et les mois de septembre où le maïs a besoin d'eau. Et c'est quand donc les nappes et les rivières sont plus en souffrance qu'il y a besoin de plus pomper dedans. Donc moi, je pense que c'est une forme d'agriculture qui est devenue incompatible avec les évolutions climatiques qu'on connaît.
On rappelle que le maïs n'est pas une plante indigène. Hein. Il y aurait des plantes plus intelligentes à cultiver.
C'est une plante climat tropical humide et il me semble qu'on n'est pas en tropical humide. Là. On évolue vers le tropical sec, quoi, ou le méditerranéen, hein, mais pas du tout vers l'équatorial ou le tropical humide. Donc il y a des acteurs qui sont en train de se redire là-dessus en disant mais les priorités pour l'eau, c'est l'eau potable et l'agriculture. Ça, c'est revendiqué haut et fort par un certain nombre de syndicats majoritaires et autres représentants de l'agro-industrie. Alors que non, pour nous, Les priorités, c'est l'eau potable, certes, mais en deuxième, la vie des milieux aquatiques. Pas la ressource en eau, mais l'eau, c'est un milieu de vie. Et donc, c'est la vie qui, elle-même, nous garantit l'eau potable. Mais ils font très, très grosse pression sur les préfets de département, sur les préfets de région, sur toutes les instances, on voit sur les gouvernements successifs, pour que la deuxième priorité pour l'agriculture française, ce soit bien leur agriculture conventionnelle, irrigante, chimique. C'est une forme d'agriculture incompatible avec simplement le maintien de la vie. Un champ de maïs, c'est un désert. En termes de biodiversité, on ne peut pas trouver pire. En termes de pollution non plus. En termes d'utilisation non pérenne de l'eau non plus. Face à ça, j'essaie modestement d'appeler l'attention sur le fait que l'eau n'est pas qu'une ressource qui sert à faire refroidir des centrales, arroser du maïs, voire faire boire les humains, ou faire tourner d'autres industries ou d'autres choses, mais que c'est aussi un milieu de vie. Et que dans ces milieux de vie, il y a des êtres vivants autres qu'humains qui ont leurs besoins fondamentaux qu'on doit respecter, sinon ils vont disparaître. Et que la sixième extinction, c'est aussi nous, ici, sur le bassin de la Loire, qui en sommes responsables. Si on n'arrive pas à faire le pas de côté pour se mettre à leur place, et la plupart des humains, je suis en train de m'apercevoir, en sont incapables, malheureusement. L'anthropocentrisme, l'égoïsme exacerbé des humains est terrifiant. Alors qu'un égoïsme intelligent, ce serait celui de se mettre à leur place, puisqu'on a besoin d'eux pour survivre, nous, à long terme. C'est-à-dire, tout seul sur la planète, on ne sera plus rien. On a besoin de ces êtres vivants qui nous aident à, justement, avoir des biens et services, qui soient avoir de l'eau potable, avoir de l'oxygène pour respirer. Et donc, on arrive à une limite où, finalement, on a beau être quelques-uns, essayer de faire... Attendez, là, cette année, là, il n'y a pas eu assez d'eau pour que plein d'animaux ou de plantes puissent se reproduire. C'est par exemple, il faut que nous, humains, on soit plus précautionneux par rapport à cette ressource en eux, qu'on soit plus économe, qu'on soit beaucoup plus parcimonieux sur son usage, pour que les autres êtres vivants qui en ont besoin puissent continuer à survivre pour nous rendre les biens et services dont on a besoin, de manière égoïste mais suffisamment distanciée. Ça a un égoïsme un peu plus intelligent, là. Mais ça, avec toujours la revendication des contraintes économiques, etc., qui font que ça emporte surtout toute considération. Ce qui fait que pour faire ce pas de côté, je pense que l'introduction de cette idée de donner une personnalité morale, voire peut-être juridique, ça je ne sais pas, aux vivants non humains, est peut-être un des seuls moyens de percuter ces égoïsmes exacerbés pour qu'un certain nombre d'acteurs commencent à se rendre compte qu'effectivement, ils doivent écouter les besoins fondamentaux des vivants non humains.
Tu y as participé, toi, à ce Parlement de Loire ?
J'ai assisté à pas mal des auditions. Catherine, ma conjointe, a été une des personnes que tu auditionnais justement pour parler au nom des poissons. C'est une démarche innovante qui me paraît nécessaire, parce que sinon on va rester entre nous. Dans la mesure où on n'a pas la capacité à élargir le champ de vision de beaucoup d'acteurs humains, au fait qu'ils ne sont pas seuls sur la planète, quoi. Et qu'ils dépendent, eux comme nous, de ces autres qui ont besoin d'eau, en quantité, en qualité, et si on perturbe trop le cycle naturel de l'eau, on va inexorablement les amener à l'extinction. Bon, peut-être qu'on ne pourra pas, juste le saumon de Loire, parce que c'est un peu un animal emblématique. Fin du 19e, il a été estimé, il y avait une grosse enquête des ponts et chaussées des eaux et forêts, vers 1898, entre Nantes et Saint-Nazaire. Il était estimé qu'il y avait au moins 100 000 saumons qui rentraient dans la Loire par an. En 2022, il y a 246 saumons qui ont franchi le barrage de Vichy. Et sur 246, on peut estimer que la moitié sont morts au moins entre Vichy et Langeac, puisqu'ils sont restés sur le courbe moyen de la Lys, n'ont pas pu remonter assez haut. Il a fait trop chaud. Et à 24 degrés, un saumon, il est cuit. Il faut rappeler que le saumon est un poisson de la zone arctique, un poisson d'eau froide. Il a la capacité de nager entre 4 et 14 degrés. À 18 degrés, il s'arrête, il fait déjà trop chaud. Et à 24, il est mort. La Loire, ici, elle est montée à 30 cet été. Et même l'Allier est monté à plus de 24 degrés. Et pourquoi ? Parce que Vichy, c'est le premier barrage où on les compte, c'est à peu près à 660 km de la mer. Vichy, c'est le septième barrage. Et quand il y a eu le plan Loire Grandeur Nature édicté en 1994, on devait sauver le saumon, faire une salmoniculture. On dit, ouais, on ferme la pêche, mais que pendant 5 ans, ça va être un billard, on va restaurer la continuité écologique. Le problème, c'est que ces animaux, ils ont grandi 2 ou 3 ans dans l'Atlantique Nord, au Spitzberg, ou entre le Groenland labrador dans les Trois Davis, là-bas. Chaque saumon rentre dans la rivière où il a passé sa jeunesse. Et quand il a franchi l'estuaire, il ne peut plus se nourrir. C'est-à-dire qu'il a magasiné toutes les réserves pour faire 1000 km pendant un an sans manger. Donc c'est un animal qui est programmé pour faire un marathon, un super marathonien. C'est le super trek du Mont Blanc, quoi, en gros. Et j'ai posé la question à des marathoniens. Ce marathonien, ok, il est programmé pour ça, mais vous lui rajoutez une course de haie. Bah, simplement, il est mort, hein, le marathonien, il peut pas.
La passe à poisson.
La passe à poisson, c'est un correctif pour tenter de diminuer l'impact du barrage. Donc, sur la Loire-Saint-Laurent-des-Eaux, c'est le premier barrage permanent. Avec le débit faible, on a le pont Wilson à Tours, hein, on a le pont d'Amboise qui sont aussi des obstacles, hein, mais ce sont des obstacles secondaires qui n'apparaissent que quand les débits sont vraiment très faibles. Mais le premier obstacle en dur permanent, c'est Saint-Laurent-des-Eaux. Et Vichy, c'est le septième où on commence à compter les saumons, les aloses, les lamproies, les anguilles. Et donc, il y a une perte en ligne considérable, parce qu'à chaque barrage, il y a une sélection des individus les plus performants qui vont pouvoir le franchir. Il va y avoir une prédation exacerbée par les stocks de silures qui sont une espèce récemment installée, très adaptable, très opportuniste, qui a compris que les passes à poissons, bah, c'est un distributeur d'aliments, il suffit de s'y installer, on ouvre la gueule, et puis tout ce qui rentre, bah, pas faire d'efforts pour les manger. Et le réchauffement climatique, qui fait que pour le saumon, la durée de temps pendant laquelle les températures sont favorables pour la migration, elle se restreint comme peau de chagrin. Il fait de plus chaud, de plus en plus précocement au printemps. Et donc, nous humains, si on veut sauver le saumon, il faut comprendre qu'il faut qu'on refasse la Loire et la Lie un billard, quoi, c'est-à-dire qu'il faut enlever des barrages. Parce que la passe à poisson, ce n'est qu'un pis-aller. C'est une cautère sur une jambe de bois. Entre-temps, on avait dit qu'on va soutenir la population de saumon avec une salmoniculture, un élevage, une sorte de pisciculture adaptée. Bon, puis là, il y a des guérillas entre humains qui ne s'entendent pas sur le truc, donc ça risque de s'arrêter. Voilà. Donc, résultat, si on ne fait rien sur la continuité écologique, si on ne fait rien sur la prédation exacerbée par le silure, bah, le saumon, moi, dans 5 ans, je crains qu'il ait disparu, quoi. Si on arrête de soutenir artificiellement par repeuplement. Le repeuplement, normalement, c'est une mesure de soutien qui doit être temporaire, hein, normalement, dans l'attente que les autres problèmes que rencontre l'espèce y soient résolus. Depuis 1994, on n'a pas réussi à résoudre les problèmes de continuité écologique. Et en plus, on a aggravé les choses puisqu'on a introduit le silure et le réchauffement climatique. Donc, on rend le parcours de plus en plus difficile. Alors que si on veut sauver l'espèce, il faudrait lui faciliter le parcours. Et donc, ce que j'explique là, j'ai essayé de l'expliquer à maintes et maintes fois, mais visiblement, les impératifs humains sont toujours au-dessus de cela. Les impératifs énergétiques, agricoles, de navigation ou autres, sont toujours, dans la tête des gens, des objectifs toujours supérieurs. Je ne me cache pas, hein. Dans les couloirs du comité de bassin, certains m'ont dit « Vivement que tes saloperies de poissons aient disparu, en train de nous casser les pieds avec, quoi. » Au moins, c'était franc. Bon, c'est dans les couloirs, hein, c'est pas en séance plénière. Mais au moins, on sait à quoi s'en tenir. C'est pour ça que l'idée d'un parlement de Loire, pour donner la personnalité morale, au moins, peut-être juridique, bah, c'est une option qu'on se doit de prendre là. Pour l'instant, j'ai pas imaginé d'autres solutions pour pouvoir faire entendre leur voix à ces vivants non humains.
Philippe, on vient de l'évoquer, donc on vient en tout cas de parler de deux instances qui représentent ou représenteraient la Loire, hein, le comité de bassin et le Parlement de Loire. Est-ce qu'il y a eu des interactions entre les deux ?
Il y avait déjà pas mal d'acteurs du comité de bassin qui avaient entendu parler de la démarche du Parlement de Loire, puisque ça avait fait quand même la une de pas mal de médias. Il y a le livre qui est sorti, Le fleuve qui voulait écrire, etc. Ça fait un buzz médiatique quand même, et les gens qui s'occupent de l'eau en ont forcément plus ou moins entendu parler.
D'autant plus que ça fait écho à un précédent en Nouvelle-Zélande, je crois, où des peuples autochtones bon, qui vivent avec leur biotope, ils ont toujours à l'esprit en fait, qu'ils sont dépendants de leur biotope. Donc c'était pas tant le milieu, mais aussi une civilisation, une manière de vivre de certains sapiens. Donc ce Parlement de Loire, il fait écho à cette expérience néo-zélandaise qui existe.
Tout à fait, c'est le Whanganui en Nouvelle-Zélande. Effectivement, ce sont les autochtones qui ont revendiqué de pouvoir donner cette personnalité morale et juridique à leur fleuve, dont ils dépendent étroitement, y compris sur le plan culturel, spirituel. Sur la Loire, on n'en est plus là, parce que bah, peut-être qu'à part nous, les petits pêcheurs professionnels, Nous sommes peut-être les derniers à dépendre très très directement du fait que ce fleuve soit vivant. C'est la vie de fleuve qui nous permet de vivre. Si on le laisse mourir, on disparaîtra avec lui, directement, avant que les autres humains en subissent ses conséquences. Parce qu'il y aura des conséquences, forcément, compte tenu des multiples biens et services que l'eau rend à l'humanité. Donc effectivement, cette démarche de Parlement Loire a été présentée donc début juillet 2022 au comité de bassin qui s'est réuni au château de Blois. Devant cette présentation, il y a eu deux types de réactions. Soit une approbation par les acteurs ouverts, un peu à l'innovation, au fait qu'ils pensent qu'effectivement on s'occupe pas assez de la nature, des milieux aquatiques, et sont en bon état de santé pour ceux qui y vivent, autres que les humains. Et puis au contraire, une réaction très dure de certains élus, avec notamment un grand élu du bassin qui s'est levé et qui a dit « c'est un scandale, c'est une usurpation, la Loire c'est moi, je suis élu pour la représenter, je suis... » etc. etc. Donc il nous a fait un scandale, quoi. Voilà. Donc deux réactions très différentes qui montrent que c'est pas gagné, quoi. Et face à ce type de réaction, il serait peut-être nécessaire qu'un mouvement citoyen qui se remette un peu debout là, pour essayer de soutenir cette nouvelle approche du vivant, quoi. Donc à nous d'essayer d'innover en essayant de continuer à faire prendre conscience que ces innovations sont nécessaires, sinon on va rester entre nous humains, on va rester entre un autre soi, sans écouter les besoins. Alors, en faisant des passes à poissons, en faisant des Natura 2000, en faisant des trucs de poissons, on se donne bonne conscience quelque part. Ah oui, non, mais on applique les textes, on fait ce qu'il faut. Mais on fait le minimum syndical de ce qu'exigent les textes réglementaires, mais on n'écoute pas les besoins de certaines espèces. Alors, certaines espèces vont mieux, hein, sur la Loire. C'est vrai que la loutre, le balbuzard, pêcheur, ça va mieux. Mais il y a beaucoup d'autres espèces qui vont nettement moins bien. Et notamment les poissons migrateurs. On va les pousser à l'extinction, puisqu'on fait semblant de s'intéresser à eux. On ne fait que semblant, puisque en fait, on ne répond pas à leurs exigences de base pour qu'ils puissent survivre. Donc, il faut pousser pour cette idée d'essayer de leur donner une voix, de quelque manière que ce soit. Je ne sais pas, moi. C'est collectivement qu'on pourra inventer de nouvelles... façon de mieux entendre les besoins de ces vivants non humains.
Au moment de cet entretien, Philippe, on est à l'automne 2022. On sort de cet été traumatisant. Canicule à répétition, t'as pas de boule de cristal, hein. Je vais me garder de demander si ce qu'on a vécu cet été 2022 annonce les étés à venir. Et en tout cas, sur l'eau, il y a au moins deux grands thèmes. Il y a sa quantité, son abondance ou sa non-abondance, et puis sa qualité, parce que c'est bien beau d'en avoir, mais enfin bon, on peut boire aussi une eau chargée de saloperies. Déjà, sur la quantité, on a entendu, et sur l'île de Groix, et dans certains bleds en France, des gens qui ouvrent le robinet, et il n'y a pas d'eau. Là, j'ai des copains qui étaient en Ariège, ils ont vu des camions, citernes, apporter de l'eau dans des villages. Je reviens de Haute-Loire, là, il y a un monsieur qui habite dans un village de Haute-Loire depuis 73 ans, il m'a dit, c'est la première fois de ma vie que je vois la fontaine du village à sec. À l'autre bout du tuyau, il y a aussi tout le monde, en fait. La probabilité qu'un jour, ouvrir le robinet et pas d'eau à boire.
Tout à fait. L'eau qui coule au robinet, ça ne va pas de soi. Ça ne va que s'il y a des services rendus par des humains qui se mettent en quête pour faire que l'eau arrive correctement à la bonne pression chez vous. Mais pour qu'il puisse se faire, il faut que les nappes phréatiques soient au bon niveau, qu'elles n'aient pas été trop pompées comme ça a pu l'être malheureusement cette année. Ou que les rivières coulent encore. Hein. À Nantes, la métropole de Nantes, la tension est extrême. L'eau commence à être salée au robinet. Parce qu'il n'y a plus assez d'eau douce arrivée en Basse-Loire pour contrarier les marées. Et donc l'eau salée, les prises d'eau avaient été remontées déjà à cause du bourgeon vaseux il y a une trentaine d'années. Ils avaient été remontés d'une vingtaine de kilomètres et ce n'est pas suffisant. Avec le déficit d'eau arrivant à la mer, pas assez d'eau douce déjà pour diluer. Et puis, avec la remontée du niveau de la mer, il y a un problème. Alors sinon, le bon état des eaux, là, en région centre, on est à 24% des eaux en bon état écologique. L'objectif, c'était 100% anti-dadérive 4 sur l'eau. On s'était mis comme objectif, après le Grenelle, l'environnement, 60%. On est à 24%. Mais en Loire-Atlantique, on doit être à 3%. En Vendée, on a 1% des masses d'eau en bon état écologique. En Vendée, par exemple, y a plus d'eau disponible. Toute la ressource est utilisée par les humains. Pour l'alimentation en eau potable, pour les industries, pour l'agriculture. Et ce qu'un certain nombre d'élus n'arrivent pas à comprendre, des élus qui veulent encore entourer du tourisme, de l'industrie, des retraités, développer encore l'agriculture, alors que leur territoire est déjà au-dessus des capacités qui peuvent supporter les humains qui y vivent et leurs activités. C'est pour ça que les bassines sont d'actualité.
Les méga-bassines, on rappelle, on a fait une série d'émissions là-dessus. C'est un procédé de cette agriculture industrielle qui consiste à pomper de l'eau dans les nappes phréatiques pour...
quand il y en a soi-disant trop l'hiver, mais l'hiver dernier, il y a plein d'endroits où on aurait construit des réserves, on n'aurait pas pu les remplir. Il n'a pas plu l'hiver dernier. Il n'a pas plu du tout. Donc il n'y a pas eu de pluie hivernale. Et puis il y a le problème, c'est que alors, les barrages, j'ai eu des débats avec des barrages pas mal long de la Loire, là où je travaille, et j'ai rencontré des différents acteurs du tourisme, des élus, des agriculteurs, des industriels. Ah non, mais c'est bon, on a les barrages. Si la sécheresse, c'est pas grave. Les barrages nous soutiennent les tièges, il n'y a pas de souci. Oui, enfin, à part que c'est la première année depuis que les barrages sont construits, donc Villeray sur la Loire à Mont-de-Roanne, mis en eau en 1984, et Grandjean sur un affluent de l'Allier au début des années 2000, il me semble. Ce sont les deux barrages qu'on a pour soutenir l'étiage de la Loire. Historiquement, le soutien de la Loire, il avait été décidé qu'à Gien, on ne descendrait pas au-dessous de 60 mètres cubes secondes. Parce que 60 mètres cubes secondes, c'était ce qu'il fallait pour refroidir deux réacteurs nucléaires quand il y avait des tranches à circuit ouvert à Saint-Laurent-des-Eaux et à Avoine. Maintenant, avec 4 mètres cubes secondes, c'est bon avec les tours de refroidissement. Il y a eu déjà, au cours des années passées, là, 2019-2020, des moments où on descend au-dessous de 60 mètres cubes secondes. Là, c'est la préfète de bassin qui décide de soutenir un tiège au-dessous de ce qui est convenu dans les conventions. Parce que les barrages, on risque de les vider trop vite et on ne sait pas prévoir les pluies qu'il y aura dans les 3 mois qui viennent pour éventuellement les remplir plus ou moins. Là, c'est la première année depuis qu'il y a ces barrages où on est descendu à Gien à 38 mètres cubes secondes au mois d'août. Avec un soutien de 28 mètres cubes par les barrages. C'est-à-dire qu'on aurait retiré les barrages, il n'y avait plus que 10 mètres cubes d'eau dans la Loire, seconde. Ça faisait entre 15 et 20 à Tours et 30 à Nantes. Et dans ces conditions, y a plus trop de biens et services rendus par l'eau aux humains. Hein. Le souci, c'est que le fait qu'il y ait ce soutien d'étiage, ça a un effet pervers. C'est que les acteurs croient qu'ils sont sécurisés pour l'approvisionnement en eau, pour leur façon de vivre, de produire, de consommer telle qu'ils l'ont toujours connue. Donc ils ne se remettent pas en cause, ils ne remettent pas en cause leur façon de vivre, de consommer, de produire, notamment l'agriculture conventionnelle irrigante. Ça commence à bouger hein, dans certains coins, parce que là, on frise à cata. Mais jusqu'à cet été, on me disait non, mais pas de problème. Je dis, attendez, s'il ne pleut pas, là, fin septembre, il n'y a plus d'eau dans les barrages, il n'y a plus de 10 mètres cubes, là, Gien, là. Non, c'est pas possible. C'est des informations que moi, j'ai quand je participe au comité sécheresse. Hein. Non, c'est pas possible. J'ai dit, baratin, enfin bon, bref. Donc, ils sont dans une illusion de sécurisation avec les barrages, qui fait que ça retarde d'autant plus la prise en compte de la réalité. Et donc la nécessité absolue de changement dans les façons de produire. C'est une sorte de drogue dure, quoi. C'est une drogue dure pour des gens qui sont shootés à l'eau. À l'eau en termes de ressources, pas de milieu de vie, parce que là, la vie, c'est tout à fait secondaire.
Et voilà les amis, nos comments. On termine ici le premier chapitre de notre conversation avec Philippe Boineau, pêcheur professionnel de Loire qu'on remercie, et que vous retrouverez au prochain épisode de cette émission, à réécouter sur notre site, polemixetlavoixoff.com. Ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut.